France Info. France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés sur le canal 27 de la TNT, les informés de France Info spécial présidentiel et second tour de la primaire de la belle alliance populaire. Déjà un petit salut à nos cousins de France Télévisions qui, hier soir, après avoir quitté Manuel Valls au milieu de son discours pour donner la parole à Benoît Hamon, n'ont pas diffusé la fin du discours du gagnant du deuxième tour de la primaire. Alors comment les deux hommes ont-ils terminé leur discours? On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Hein. Manuel Valls a-t-il annoncé sa candidature à The Voice? Et Benoît Hamon a-t-il fait une imitation de François Mitterrand pour tenter de séduire Jean-Luc Mélenchon? En tout cas, on peut remercier France 2 pour cet appel à l'imagination. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Laura Slimani. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes porte-parole de Benoît Hamon. Voilà, vous êtes plein de choses, mais on va essayer de faire simple. Hein. Voilà, la synthèse, je sais que ça vous parle peut-être. Alexis Corbière de la France Insoumise, bonsoir. Bonsoir. Également Michel Hervoy de West France. Bonsoir.
Bonsoir, Jean-Mathieu.
Et Jean-Michel Apathy de France Info. Bonsoir. Bonsoir Jean-Michel. Alors on va parler de recomposition de la gauche, des larmes en meeting pour la droite, combien il y a titre de gauche d'ailleurs. Mais juste au début, très rapidement, parce qu'on va y revenir à 20h30 avec un représentant des Républicains, une question à propos de l'affaire Pénélope Fillon et les soupçons d'emploi fictif à son encontre. Eh bien aujourd'hui, le couple a été entendu par la justice, Jean-Michel Apathy, donc ça suit son cours, hein, puisque c'est à la demande de François Fillon.
C'est extrêmement rapide. Hein. Oui. L'article du Canard Enchaîné est paru mercredi, et vous voyez, le parquet financier en est aujourd'hui à entendre les époux Fillon, les magistrats qui regardent ce dossier les ont entendus séparément, visiblement, mais donc ça veut dire qu'ils sont proches de conclure, d'être en état de conclure sur tout ce volet de l'assistant parlementaire, peut-être de l'emploi à la revue des deux mondes, aussi les enfants Fillon employés au Sénat, donc il doit rester peut-être le suppléant de François Fillon à entendre, le maire de Sablé-sur-Sarthe, Marc Julot. Donc on peut imaginer que d'ici à la fin de la semaine, le parquet financier dira s'il abandonne le dossier, pas nécessité de poursuivre, parce que les infractions, selon lui, ne sont pas commises, ou alors peut-être la désignation d'un juge d'instruction. Et si le juge d'instruction travaille lui aussi à cette vitesse, peut-être que, je sais pas, les hypothèses de mise en examen se préciseront. Donc, à la fin de la semaine, dans le camp Fillon, soit on aura un soupir de soulagement, soit on se dira c'est une catastrophe qui peut s'annoncer.
C'est une catastrophe. Laura Slimani, c'est vrai qu'on a l'impression que ça s'est accéléré et que la semaine dernière était une semaine terrible, enfin dure pour le camp Fillon, hein, parce qu'on a même vu en meeting, ça a été compliqué pour lui, une mise en scène d'ailleurs dont il n'a pas l'habitude avec sa femme.
Oui, je pense que ce qui pose problème, au-delà de la question légale, qui effectivement va être réglée assez vite dans un sens ou dans un autre, bon voilà, et qui m'appartient pas à moi de juger, c'est l'affaire de la justice, mais il y a quand même une question éthique qui de toute façon se pose à François Fillon, d'autant plus qu'il s'est positionné comme le candidat de l'éthique en politique, et on voit bien que ça tient pas très longtemps. Et puis je pense aussi que ce à quoi il a affaire aujourd'hui, c'est le fait qu'il incarne plus que jamais une droite des privilèges, quoi, des privilèges de quelques-uns, et quand il fustige l'assistance ou le fait que certains bénéficieraient de la solidarité du pays, ben voilà, lui, il se retrouve dans une situation où l'assisté, en l'occurrence, c'est peut-être sa femme, ou en tout cas, il a eu un usage du denier public qui n'est pas très respectueux des Français. Voilà,
voilà, ça, on ne sait pas encore. Michel Hervoy, sur justement cette affaire.
Il y a trois, pour moi, il y a trois scénarios. Soit il arrive à faire la preuve rapidement qu'il n'y a pas d'emploi fictif, que ses enfants ont été utilisés en fonction de leurs compétences, que, enfin voilà, parce que c'est pas une affaire parce qu'il est présumé innocent, mais c'est un dossier à tiroir. Et donc, il y a tout de même un risque que ça prenne du temps et que les enquêteurs et prennent un peu de temps pour démontrer, parce que c'est à eux que ça incombe, de démontrer qu'il n'y a pas d'entorse à la loi. J'espère pour lui, et pour tout le monde, et pour le débat politique d'ailleurs, que ça se terminera rapidement. Et la deuxième hypothèse, c'est il n'y a pas effectivement matière à poursuite, mais il s'effondre dans les sondages.
Oui. Donc, et là, ça c'est possible. Oui.
Et ça c'est possible aussi, parce que c'est un poison lent, cette affaire d'argent qui ne ressemble pas du tout à son profil politique. Et puis le troisième scénario, c'est le scénario catastrophe, où il y a mise en examen, et donc renoncement à la candidature.
Alexis Corbière, justement, vous pensez que c'est une affaire propre à François Fillon ou finalement c'est toute la classe politique aujourd'hui qui s'interroge sur des pratiques. On le sait, il y a certaines pratiques qui sont au niveau qui sont légales, hein, bien sûr, forcément. Après, on peut parler aussi de la morale. Et puis, alors après, il y a d'autres affaires comme la revue des deux mondes, etc. Mais qu'aujourd'hui, c'est toute la classe politique ou ça ne concerne que François Fillon?
Je ne sais pas si la classe politique s'interroge. Il faudrait définir d'ailleurs ce qu'est la classe politique, mais le peuple en a ras-le-bol, quoi. Franchement, moi, j'étais comme beaucoup, j'imagine, quand vous parlez, c'est quelque chose qui choque énormément les gens, qui les indigne même. Il y a une colère, je dirais presque une rage, parce que ça a été dit que ce soit, c'est peut-être légal, mais c'est immoral. Je veux dire, c'est le double d'un salaire. Moi, je suis enseignant, c'est le double de mon salaire que, si c'est vrai, Madame Fillon aurait touché pour vaguement travailler dans une revue. J'observe que le rédacteur en chef dit qu'il ne l'a quasiment jamais vu. Mais c'est des mœurs. Comment peut-on imaginer, c'est un esprit de caste, d'imaginer que c'est possible de verser une indemnité particulièrement élevée, parce qu'on est assistant parlementaire, des fois il travaille beaucoup pour pas grand-chose, oui. Là les sommes dont on parle. Donc il faut être culturellement dans quelque chose qui est assez symptomatique. Vous savez la critique virulente qu'on fait de la Ve République, de cette forme de monarchie présidentielle. Il y a des mœurs...
Ça n'a rien à voir avec les institutions. Hein,
là, mais si, je crois que les institutions doivent permettre, c'est la raison pour laquelle je crois que ce qui est au cœur, c'est un changement de système. Arrêtez, il faut que les citoyens aient des possibilités de contrôle. Nous, on met au cœur, par exemple, 6e République, droit de révoquer les élus. C'est-à-dire que les citoyens, même si la justice dit, après tout, il s'en sort, doivent aussi dire, dans le cas présent, ben moi, ça ne me plaît pas, eh bien, je le révoque. Et je crois que le citoyen... Non, mais on est dans un moment où il faut responsabiliser, il faut créer un cercle vertueux pour qu'on ne soit pas passif par rapport à ça. Il y a le temps de la justice, mais il y a aussi le temps de l'éthique et de choses qui, franchement... peuvent choquer nos concitoyens. Et finalement, un député, c'est un représentant du peuple. Et là, on voit bien qu'il y a une indignation générale.
On les révoque par le suffrage universel. Hein. C'est la meilleure façon de les révoquer.
Hein. Non, c'est pas la meilleure façon. Parce que ça crée la possibilité. Non, mais ça crée la possibilité qu'on se fait élire sur un programme et qu'on fait l'inverse. Et que pendant le temps
après,
du
on
mandat.
Rend compte.
Non, mais moi, je crois que ça crée un cercle vertueux. Parce que ça permettrait qu'un élu, il sait que, à tout moment, eh bien, il a une forme d'épée de Damoclès démocratique qui pèse sur lui, et il doit rendre des comptes, il doit être transparent, il n'est pas, comment dirais-je, le peuple n'est pas déresponsabilisé, allez, il reste actif et présent, allez, donc citoyen.
On en parlera, on en reparlera à 20h30, on va parler de Benoît Hamon dans un instant, oui, puisque c'est lui hein, qui va représenter la belle alliance populaire à la présidentielle. L'info à 20h10, Pierrick Bonneau.
Le tollé provoqué par le décret anti-immigration du président Trump, Jean-Marc Ayrault demande ce soir l'annulation pure et simple du texte. Le ministre français des Affaires étrangères juge cette mesure dangereuse et préoccupante. Jean-Marc Ayrault en visite en Iran, justement l'un des 7 pays musulmans visés par cette interdiction d'entrée sur le territoire américain pour ses ressortissants. Le couple Fillon, toujours entendu par les enquêteurs, ce soir Pénélope et François sont interrogés séparément sur les soupçons d'emploi fictif de l'épouse du candidat de la droite à la présidentielle. On ne sait pas précisément où ont lieu ces auditions, pas au parquet national financier, en tout cas selon nos sources. L'épouse de François Fillon est toujours soupçonnée d'avoir occupé pendant 8 ans un emploi fictif d'attaché parlementaire auprès de son mari, ainsi qu'à la revue des Deux Mondes. Elle y était officiellement chargée de rédiger des notes littéraires. La police québécoise annonce ce soir qu'un seul des deux hommes placés en détention après la fusillade dans une mosquée n'est considéré comme suspect. L'autre homme ne serait qu'un témoin. 6 personnes ont été mortes et 8 ont été blessées hier soir dans un centre culturel islamique de Québec. Toujours pas d'explication sur les motivations du ou des tireurs. Et puis les Grenoblois étaient concernés depuis 12 jours. La fin de l'épisode de pollution particules fines dans le sud-est de la France. Les restrictions de circulation sont levées en Savoie, en Haute-Savoie, dans le Rhône et dans l'Isère. La mauvaise nouvelle, eh bien, c'est que les transports en commun seront de nouveau payants à partir de demain dans l'agglomération grenobloise.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on parle maintenant de l'événement donc d'hier soir. Ça y est, hein, c'est terminé pour la primaire. On connaît le nom du vainqueur, c'est Benoît Hamon. Et cette fois-ci, donc, plus d'excuses pour François Hollande. Hein. Jusqu'à présent, pourtant, il en avait trouvé de bonnes, des excuses pour sécher la primaire de la Belle Alliance Populaire. One Man Show de Michel Drucker. Bon, alors ça, c'est normal, impossible de se désister. Voyage au Chili. Eh, on n'y va pas tous les jours, quand même, au Chili. Hein. Et là, hier soir, le président de la République avait... cogiter toute la semaine pour trouver un prétexte afin de ne pas aborder le sujet. Et heureusement pour lui, quand même, l'équipe de France de handball est allée en finale et a remporté le titre de champion du monde. Une heure après l'annonce des résultats de la primaire, tout le monde guettait le tweet de la présidence. Et il est venu, ce tweet, hein, et il a dit, François Hollande, félicitations à cette formidable équipe de France du nouveau champion du monde. Comme un total désintérêt à la cuisine de son parti, le 29 janvier 2017 a-t-il signé la fin du quinquennat Hollande ? C'était en tout cas annoncé la semaine dernière, notamment par le principal ralliement à Benoît Hamon, Arnaud Montebourg.
Nous avons avec Benoît Hamon quitté le gouvernement ensemble, c'est un désaccord majeur. Quand on quitte le gouvernement, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Et c'était la politique de Manuel Valls. C'est la dérive libérale d'un quinquennat auquel nous mettons fin.
Voilà, on met fin à un quinquennat. C'était les mots d'Arnaud Montebourg la semaine dernière. Alors, Laura Slimani, aujourd'hui, il a été reçu à Matignon, Benoît Hamon. Et il a dit tout de même, en sortant de son entretien avec Bernard Cazeneuve, qu'il fallait partir du bilan du quinquennat pour imaginer l'avenir. Alors ça veut dire que c'est là où on ne comprend pas trop. C'est-à-dire qu'il a été frondeur, donc tout n'est pas mauvais dans ce quinquennat ?
Mais d'ailleurs, il n'a jamais dit que tout était mauvais, si vous l'avez entendu. Il a à chaque fois dit qu'en matière d'éducation, en matière de droits des femmes, en matière d'agroécologie, par exemple, il y avait des choses qui étaient bonnes et qu'il faudrait qu'elles soient défendues dans le cadre de la campagne présidentielle. Mais cela n'enlève rien au fait qu'effectivement...
Les domaines dans lesquels il a été ministre, finalement.
Il a été... Non, pas uniquement, mais c'est vrai que la loi consommation et la loi sur l'économie sociale et solidaire qu'il a lui porté en tant que ministre sont aussi des lois plébiscitées par les Français aujourd'hui. Donc voilà, il y a eu des choses intéressantes, mais une addition de bonnes mesures ne font pas une politique de transformation sociale, et c'est le message qu'il a porté pendant cette primaire en essayant de remettre au cœur du débat politique, de placer au cœur du débat politique la question des transformations que sont en train de vivre les Français au travail en matière de dégradation environnementale.
Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin du quinquennat de François Hollande depuis hier soir ? Est-ce que c'est fini finalement, aujourd'hui, Manuel Valls battu.
Le quinquennat, il se terminera fin avril, si je ne m'abuse. Donc non, il n'est pas terminé. Mais en l'occurrence, alors, oui, il y a une page qui s'est tournée. C'est celle d'une gauche qui, finalement, ne s'est pas assumée sur beaucoup de plans quand elle était au pouvoir. Et on voit que ça a créé beaucoup de désespoir chez les électeurs de gauche, mais que cette primaire a fait renaître de l'espoir. Et moi, c'est là-dessus que je souhaite qu'on se base pour mener cette campagne présidentielle.
Alexis Corbière, pour vous, aujourd'hui, il y a quelle légitimité ont François Hollande ? Il a renoncé à aller à cette primaire. Il est encore, d'ailleurs, président de la République, bien sûr. Manuel Valls, ce qui représentait aussi ce gouvernement battu. Donc ça veut dire que la page est tournée pour vous ?
Oui, moi je pense que c'est l'analyse que je fais du moment qu'il faut voir ce qui monte profondément dans le pays depuis un moment. C'est une colère qu'on voit bien, y compris dans l'affaire Fillon, une volonté de passer le coup de balai. Il y avait le titre dans le livre de Jean-Luc Mélenchon, le « Qu'ils s'en aillent tous », qui avait un peu, qui vous avait fait réagir. Moi, j'utilisais hier une expression que je voudrais pas qu'il soit mal comprise. J'ai parlé parfois de dégagisme.
Alors, évidemment,
non mais. Ça concernait, lors de la révolution tunisienne, le régime de Ben Ali. Je ne compare pas Monsieur Sarkozy ou Juppé à ça. Mais ce que je veux dire, c'est ce mouvement, on est démocratique, qui dit que la classe politique, une classe politique doit partir. Et que d'abord, c'est ça, et cette vague, elle a été l'énergie, me semble-t-il, de la primaire de la droite. Sarkozy, Juppé, les vainqueurs annoncés ont été sanctionnés.
Ça concerne pas non plus Jean-Luc Mélenchon, deux fois quand il est présidentiel, depuis 30 ans élu. Est-ce que ça concerne pas ?
Je connais la taquine.
Oui, mais...
Non mais pourquoi pas ? Mais sauf que je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon ait dirigé ce pays depuis 10 ans. Il a été d'ailleurs un des premiers cohérents à dire le Hollande ça va dans le mur. Alors que Benoît à l'époque disait, Benoît Hamon, non ça va pas dans le mur, faut être dedans. Donc j'ai quand même souvenir de désaccords de fond. Et ceux qui se sont trompés, c'est plutôt Montebourg et Hamon. Parce que Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, a aidé Manuel Valls à devenir Premier ministre. Alors que nous, on disait, c'est une folie. Et bon, bref.
Donc, l'erreur.
Attendez, j'aimerais terminer le raisonnement l'énergie de ce qui s'est passé, y compris dans la primaire du PS, c'est d'abord un rejet de Manuel Valls.
Il y a eu un rejet.
Je terminerai. Vous allez me répondre. C'est-à-dire que je ne crois pas que cette primaire et ce rejet donne une centralité au Parti Socialiste. Je vais dire clairement, ce pays majoritairement ne va pas se regrouper derrière quelqu'un qui fait partie du gouvernement, du parti qui soutient le gouvernement.
Alors justement, on va y venir dans un instant.
Il y a une incohérence. C'est ça qui est passionnant au moment qui est devant nous.
Laura Slimani, après, je me suis appâti.
D'abord, bien sûr qu'il y a eu un rejet de la personnalité de Manuel Valls et de la politique qui a été menée. Personne ne peut le nier, bien sûr, Alexis Corbière. Mais on ne peut pas non plus nier qu'il y a eu une véritable adhésion à la candidature de Benoît Hamon, tant sur sa personnalité et son authenticité, qui, je crois, aujourd'hui, reflète quelque chose de la volonté, de la demande démocratique dans le pays.
Il y a eu un million de votants de moins que la dernière fois, vous l'avez vu.
Et aussi une forte adhésion aux propositions qu'il faisait. Alors, et il y avait juste à se rendre dans les meetings de Benoît Hamon avec des milliers de jeunes, se rendre compte que ce n'est pas uniquement un vote de rejet, il y avait une véritable adhésion à ce qu'il a porté pendant cette
Jean-Michel
primaire.
Jean-Michel Apathy, on a vu qu'il y avait un peu plus de monde qui avait voté pour ce second tour quand même de la Belle Alliance Populaire.
Un peu, oui.
Oui, un petit peu. Est-ce que, voilà, je reviens sur ce terme, à un moment on l'a utilisé, référendum anti-Manuel Valls. Est-ce que pour vous, c'est le cas ? Est-ce que ça a été ça, finalement ?
Moi, je pense que, enfin, je l'ai dit hier soir comme ça, je pense que le succès de Benoît Hamon est davantage davantage lié à une sanction de la politique gouvernementale qu'à un plébiscite de son projet, parce que le revenu universel, je pense que c'est quelque chose qui est tellement théorique et lointain que peu de gens y ont investi quelque chose. En revanche, la sanction du gouvernement, elle est tombée, effectivement. Ça dépasse le référendum pour ou contre Manuel Valls. C'est une sanction, s'il y en a une, qui vient du Parti Socialiste et de ses sympathisants, qui est d'abord dirigée contre François Hollande.
Contre François Hollande,
c'est ça. D'abord ouais. Ça. C'est, on solde le quinquennat. Et les gens qui ont porté François Hollande au pouvoir disent, nous sommes très insatisfaits de ce qui a été fait. On observera quand même avec curiosité ce que va faire François Hollande. Il parlera bien.
Alors justement,
si François Hollande dit, j'appelle à voter Benoît Hamon, franchement, moi... Que voulez-vous ? Dans la déprime générale, je pense que ça me fera éclater de rire plutôt qu'autre chose.
Déjà, Bernard Cazeneuve l'a fait aujourd'hui.
Oui, alors je vous le dis, François Hollande reçoit Benoît Hamon jeudi à 11h. On le sait, voilà, ce soir, voilà, c'est dit. Michel Hurvoy, est-ce que disait finalement Alexis Corbière, juste une question, est-ce qu'aujourd'hui, Benoît Hamon, malgré son passé de frondeur, est-ce qu'il peut s'affranchir totalement finalement du bilan de ce quinquennat ?
Ben non. D'ailleurs, dans la rose qu'a tendue Bernard Cazeneuve à Benoît Hamon cet après-midi, il a surtout tendu des épines, il me semble. Mmh. Il a dit, on te soutient, le gouvernement te soutient, mais en disant, il faut défendre le bilan, en disant, il faut rassembler tous les progressistes, il faut avoir les mots, les gestes, les thèmes pour, il faut avoir des exigences par rapport à la vérité, il faut accepter la confrontation
donc,
à la réalité.
Eh ben,
il le soutient en disant.
C'est là que la politique est écœurante.
Je suis d'accord, mais il le soutient en disant...
Mais c'était écœurant, la politique, dans ces cas-là.
Mais c'est pas en disant que tu as été élu sur ces bases-là, mais c'est ça qu'il faut faire. Donc il y a tout le grand écart
entre les gens entre ce bol. Sauf que je soutiens, je souhaite ta victoire, parce que si je dis, je te soutiens,
mais il faut
que tu fasses ça, et ça, c'est insupportable.
Mais non, mais ça s'appelle le débat.
Je suis apathiste ce soir.
On n'entend pas, Jean-Michel Apathy tout à l'heure. Je pense qu'il y a une part d'adhésion au projet, malgré tout, de Hamon, à sa personne aussi, parce qu'il a été découvert dans cette primaire.
Bien sûr.
Mais une part liée au projet, et une part qui est liée à une abstention des valsistes, ou de la gauche réformiste. Moi, je le vois dans l'Ouest en particulier, où Valls fait des scores extrêmement bas.
Oui, mais pardon,
là où il y a un socialisme modéré, et là où Macron, justement, prend racine peut-être plus qu'ailleurs.
On va continuer à en parler dans un instant.
Si je peux me permettre, Manuel Valls faisait 5% aux dernières primaires, et donc c'est aussi ce qui s'est reflété dans ces primaires.
On va en parler dans un instant de Benoît Hamon et de finalement sa capacité ou non à rallier toute la gauche derrière lui. Je sais pas, j'ai peut-être une petite interrogation. L'info à 20h20, Pierrick Bonneau.
François Hollande recevra Benoît Hamon à l'Élysée jeudi à 11h, annonce à l'instant de l'Élysée, non pas de la Maison Blanche. Cet après-midi, le candidat socialiste à la présidentielle était dans le bureau du Premier ministre. Bernard Cazeneuve lui apporte son soutien, mais lui lance un avertissement. La gauche ne réussira pas sans assumer le bilan du quinquennat. Le chef du gouvernement a rappelé à Hamon toutes les raisons d'être fier, selon lui, des progrès que François Hollande a rendus possibles. Le ministère de l'Éducation nationale annonce l'ouverture d'une enquête après la mort d'un lycéen de 17 ans ce midi, poignardé près de son établissement dans le 20e arrondissement de Paris. Le jeune a reçu plusieurs coups de couteau selon le rectorat. Lorsque les secours sont arrivés, ils n'ont rien pu faire. Le ou les auteurs sont en fuite, mais il s'agirait d'un règlement de compte. Une cellule psychologique a été ouverte dans l'établissement. À Londres, une pétition a déjà recueilli près d'1 400 000 signatures pour réclamer au gouvernement d'annuler la visite d'État de Donald Trump prévue en Grande-Bretagne pour 2017. C'est le décret anti-immigration qui suscite de plus en plus de critiques au Royaume-Uni. Beaucoup de Britanniques n'ont pas supporté notamment la lenteur de la réaction de Theresa May. C'est une figure du barreau français qui s'éteint. L'avocat Thierry Lévy est mort à l'âge de 72 ans. Le président Hollande rend hommage à un défenseur infatigable de la cause des droits de l'homme. Thierry Lévy a notamment été président de l'Observatoire international des prisons. À ce titre, il restera l'avocat qui voulait abolir la peine carcérale et fermer les centres pénitentiaires.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Laura Slimani, porte-parole de Benoît Hamon, Alexis Corbière de la France Insoumise et donc aussi donc porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. On peut dire ça, Alexis. Voilà. Vous avez ce titre officiel ou pas ?
Mais bien sûr.
Voilà, très bien. Voilà, il fallait le dire. À un moment,
mais vous oubliez quand vous m'invitez, vous m'appelez.
Oui,
comme
totalement.
Ça,
je sais pas. D'un coup, j'ai eu une.
Je suis très vexé.
J'ai eu une absence. Voilà. Je sais que vous vous associez à Jean-Luc Mélenchon et porte-parole. Voilà. Michel Urvois de Ouest France et Jean-Michel Apathy de France Info. Alors demain, on le sait, eh bien, il y a les Manuel Valls hein, réunit ses soutiens et demain matin, c'est les élus de l'aide droite du PS qui vont tenir des réunions. Et c'est donc la question que tout le monde se pose. Benoît Hamon pourra-t-il réunir tout ce beau monde autour de sa candidature et même aller au-delà ? Peut-il séduire chez Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron pour une future majorité parlementaire comme il le souhaite ? Le candidat des écologistes lui a répondu. Vous allez l'entendre, c'est assez clair, Yannick Jadot.
Moi, je suis prêt à me lancer dans cette grande dynamique avec Benoît Hamon, avec les électeurs de Macron ou les électeurs de Mélenchon. Parce que c'est là l'alternative, c'est là le souffle, l'espoir de cette société.
Il faut qu'il se libère de son parti, quoi.
Mais oui.
De la dictature des partis politiques.
Vous voyez bien les dynamiques. Oui. Elles sont où aujourd'hui, les dynamiques?
En dehors des partis.
Y compris, c'est Mélenchon qui a
c'est Mélenchon, c'est Macron, c'est vous. Et...
Parce que, y compris le message des électeurs de cette primaire, c'est qu'ils en ont aussi ras-le-bol du Parti Socialiste.
Voilà, Yannick Jadot ce matin et Jean-Jacques Bourdin sur BFM. Quand vous entendez ça justement, Alexis Corbière, tout le monde s'est dit, quand Benoît Hamon a été élu à cette balance populaire, ah bah là ça va prendre des voix à Jean-Luc Mélenchon.
Non, mais ça se passe pas comme ça. D'abord, c'est pas du marketing politique. Les voix qu'il faut aller chercher, c'est les abstentionnistes. Mmh. Et le problème du PS, quand même, c'est qu'il est aujourd'hui extrêmement bas. Donc, j'espère que son ambition, c'est pas d'aller gratter ou siphonner, comme je l'ai lu de la part de certains de l'entourage de Benoît Hamon, qui ont dit, on va siphonner. C'est une faible ambition. Moi, mon analyse, je répète, il y a une énergie dans le pays qui est en colère. Et je ne crois pas. Et je le dis à Laura Slimani, puis même à Benoît Hamon à travers elle. Un candidat du Parti Socialiste ne peut pas capter ça. On ne peut pas battre la droite et l'extrême droite en disant « je suis le candidat du Parti Socialiste, comptable d'éviter l'éclatement du PS, donc d'enrichir mon programme, comme le dit Benoît Hamon, pour que les valsistes ne partent pas, et capter cette volonté quand même de grands changements. » C'est ça le débat. Donc après, j'entends, il y a des mains tendues, mais c'est tellement ambigu, on va laisser tout le monde un peu clarifier la situation.
Donc il faut soutenir Jean-Luc Mélenchon dès le premier tour.
Mais pourquoi vous dites, pourquoi vous posez le problème comme ça? Moi, j'ai pas cette arrogance.
J'ai déduit cela de vos propos.
Mais vous déduisez mal.
Ce serait mieux.
Vous déduisez mal parce que, celui qui a commencé la discussion sur un ton, moi, qui m'a étonné, c'est Benoît Hamon, qui chez Jean-Jacques Bourdin disait, quoi qu'il arrive, il y aura un bulletin Benoît Hamon. Lui, il semble dire aujourd'hui, voilà, c'est autour de moi et ma candidature, arrêter les campagnes. Et donc je dis, il ne comprend pas, à mon avis.
Mais il a été suffisamment clair sur la nécessité de se parler depuis longtemps. Après, quand il réunit sur son nom plus d'un million d'électeurs, bon, voilà, il faut
Mais Mélenchon a réuni sur son nom près de 4 millions d'électeurs.
C'est pas un argument, ça, hein. À quelques mois de la présidentielle, ça veut dire qu'il a une légitimité dont aujourd'hui ne jouit pas Jean-Luc Mélenchon, mais il jouit d'une autre légitimité, qui est celle d'avoir porté un combat depuis longtemps, des questions effectivement écologiques, sociales, etc.
Aujourd'hui, tout le monde doit arrêter la campagne, c'est derrière Benoît Hamon, c'est ça votre proposition.
Mais ce que je dis, c'est que c'est irresponsable de ne pas regarder comment on peut s'unir. C'est irresponsable au regard des scores attendus de la droite et de l'extrême droite et de leurs projets politiques respectifs. Voilà. Et donc je pense que l'appel de Benoît Hamon, c'est un appel à l'unité et à la responsabilité de chacun. Et aujourd'hui, je pense en effet qu'il est le candidat qui a le plus de légitimité.
Bien sûr, j'en prie Alexis Corbière.
Non, mais il faut clarifier les choses. Premièrement, j'entends, donc c'est tous derrière Benoît Hamon, le candidat du Parti Socialiste. Deuxièmement, les candidats aux élections législatives que vous soutenez sont à 90% les mêmes qui ont soutenu la politique d'Hollande depuis 2012. Je prends un exemple, j'ai déjà répété. Myriam El Khomri est candidate dans le 18e arrondissement. Est-ce que cette dame va aller devant les électeurs en disant « Je suis candidate avec Benoît Hamon pour abroger la loi El Khomri ouais, » Est-ce que c'est crédible?
Ça, c'est pas crédible.
Est-ce que Manuel Valls va être candidat à Évry pour dire qu'il faut revenir sur la politique que j'ai menée? C'est incohérent.
Il a dit qu'il fallait un programme commun de gouvernement qui donc impliquera effectivement.
Mais est-ce que Madame El Khomri va être votre candidate?
Qu'on construise une majorité politique pour mener ce...
Ne faites pas de langue de bois. Est-ce que les candidats qui ont soutenu le candidat, c'est vos candidats?
Alors, c'est les candidats du Parti Socialiste aujourd'hui.
Oui,
mais en l'occurrence, c'est pas les
bon
candidats de toute la gauche. Donc la question, c'est comment, s'il y a un accord politique, s'il y a un accord sur le fond, comment on crée les conditions
donc
de la majorité politique à la
droite nationale. Vous annoncez que Benoît Hamon va retirer la
Mais non, je n'annonce rien du tout, puisque vous n'annoncez même pas que votre candidat va rencontrer Benoît Hamon. Donc on attendra cette rencontre de voir ce qu'il en sort.
Attendez, je veux dire,
on comprend plus. C'est-à-dire que
j'ai annoncé qu'il n'allait pas le rencontrer.
Jean-Luc Mélenchon va rencontrer Benoît Hamon.
Je ne sais pas. Vous ne l'avez pas dit. Donc j'attends que
c'est une négociation entre les deux gauches qui se déroule.
Non,
mais Jean-Luc Mélenchon, c'est là que ça se passe, pour l'instant qu'il rencontrait Benoît Hamon aussi.
Non, mais je vais vous dire une chose à ce micro. C'est pour l'instant, je veux le dire, Benoît Hamon n'a pas cherché à prendre contact avec Jean-Luc Mélenchon. Je tiens à le dire. Hein.
D'accord.
Non, mais c'est pas secondaire.
Il l'a fait quand même publiquement à de nombreuses reprises.
Ah, ça doit se passer comme ça. C'est à la télé qu'on annonce.
Je n'en doute pas que. Bon, je sais pas. Moi, j'ai pas le téléphone de Benoît Hamon devant les yeux. Vous avez peut-être suivi Jean-Luc Mélenchon devant les yeux, mais.
Alors, nous, on les a ici, si vous voulez.
Non, mais en plus, tout le monde. Benoît Hamon a le numéro de Jean-Luc Mélenchon.
Ah oui, ils ont leur numéro.
C'est formidable.
Mais il ne l'a pas appelé. On est d'accord.
Pour la clarté du débat, les choses sont assez simples. Est-ce que il est possible de construire une alliance avec les gens qu'on a critiqués, contre lesquels on a voté pendant 4 ans, et sur lesquels, sur le bilan desquels, on a gagné une élection? Est-ce que Benoît Hamon...
Du Parti
Socialiste. Au sein des socialistes. Ensuite, non mais je pose la question à tout le monde, laissez-moi terminer. Ensuite, est-ce qu'on peut construire une majorité en ayant des différences aussi fortes que celles qui existent, par exemple sur l'Europe, entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, par exemple sur le revenu universel, par exemple sur le nucléaire avec d'autres?
Alors Michel,
je veux dire, ou alors, il faut renoncer. Il faut trahir.
On va c'est
devoir
le propre de
la primaire.
Mais c'est intéressant.
Exactement. Merci beaucoup, Alexis Corbière, d'être passé ce soir aux informés de
merci
France Info.
De m'avoir invité,
et voilà, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, à la recherche peut-être ou non du portable de Benoît Hamon. On le saura plus tard. Allez, on parlera du côté droite et de l'intérêt ou non des primaires. Voilà la suite du programme des informés de France Info.
Je te dis porte blindée, tu me réponds ?
Point fort fichet. Ma sœur s'est fait installer une porte blindée après son cambriolage.
Eh bien, du 17 janvier au 4 février, ils offrent la TVA sur toutes les portes fichettes d'appartements et de maisons.
Je fonce !
Point fort fichet, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
Voir conditions en magasin et sur fichet-pointfort.com.
Pour EOVI MCD Mutuel, je ne suis pas un numéro de dossier. Je suis Stéphane, chef d'entreprise, 15 salariés. Il y a Yvette, Claire, Jules le petit nouveau, bref, on se connaît tous. Une vie à 100 à l'heure, sauf le week-end.
Chaque personne est différente. Et c'est pour ça que chez EOVI MCD Mutuel, nos contrats santé collectifs ont des options personnalisables pour chacun des salariés et pour le chef d'entreprise débordé, des formalités simplifiées. EOVI MCD Mutuel, se comprendre mutuellement.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur eovi-mcd.fr.
France Info Météo, avec Teva, laboratoire pionnier des médicaments génériques qui propose aux patients et aux professionnels de santé la plus grande armoire à pharmacie du monde.
Et à Météo France, on retrouve Élodie Calac.
Un peu plus de douceur et encore beaucoup de nuages au nord. Un ciel gris avec un peu de pluie, surtout dans le nord-est. L'après-midi, ça s'éclaircira des Pays de la Loire vers le centre. Du gris aussi entre le Roussillon, le sud de Rhône-Alpes, la Côte d'Azur avec quelques gouttes en prime. Le vent d'autant poussera ses nuages vers le midi toulousain le matin, mais ça s'arrangera l'après-midi. Sur la Corse, un ciel bien nuageux avec des averses à l'ouest. Entre l'Auvergne et le Lyonnais, des éclaircies plus belles l'après-midi. Et puis dans le sud-ouest, du soleil dès le matin. Il gagnera les Charentes, le Limousin, l'après-midi. Il fera doux, 4 à 10 degrés le matin, l'après-midi 8 degrés à Strasbourg, 11 à Lyon, 12 degrés à Paris, 15 à Nantes et Marseille, 16 à Agen et 20 pour Biarritz.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. François Fillon et son épouse Pénélope, toujours entendus par les enquêteurs. L'objectif, c'est de savoir si Pénélope Fillon a bénéficié d'emplois fictifs en tant qu'assistante parlementaire, mais aussi à la revue des Deux Mondes, dont le propriétaire, le milliardaire Marc Ladré de la Charrière, proche de François Fillon, a été entendu aujourd'hui. L'ancien Premier ministre avait lui-même demandé à être auditionné par la justice. Yannick Falt.
Un membre de l'équipe de campagne s'attendait à des auditions dans la semaine. Rendez-vous finalement 5 jours seulement après l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet financier. Tout va donc très vite, alors que 3 autres protagonistes ont déjà été entendus. Michel Crépu, l'ancien directeur de la revue des Deux Mondes, la journaliste Christine Kelly, auteur de la première biographie de François Fillon, et aujourd'hui même Marc Ladré de la Charrière, le propriétaire de la revue des Deux Mondes. La revue des Deux Mondes, c'est d'ailleurs l'affaire qui inquiète le plus le camp Fillon, car si son poste de conseillère éditoriale était un emploi fictif, ce sera un abus de bien social, alors que le caractère éventuellement fictif de son emploi comme collaboratrice parlementaire sera plus difficile à prouver. Ça relève du fonctionnement de l'Assemblée plus que de la justice pour les fillonistes, les partisans de François Fillon qui espèrent en tout cas que les affaires seront très vite purgées, que François Fillon ne les traînera pas comme un boulet dans sa campagne.
Et Yannick Falt, c'est l'homme au chapeau des attentats de Bruxelles et l'un des suspects clés des tueries de Paris détenus en Belgique. Mohamed Abrini a été brièvement transféré en France aujourd'hui où il a été mis en examen par des juges antiterroristes chargés de l'enquête sur le 13 novembre. Les ventes de pesticides aux agriculteurs en recul pour la première fois depuis 2008. Ces ventes ont baissé de 2,7% en France entre 2014 et 2015. 2008 où le gouvernement avait lancé un plan visant à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Plus d'un million de personnes ont déjà signé une pétition contre la visite d'État de Donald Trump au Royaume-Uni programmée cette année. Des signataires qui protestent contre son décret anti-migrants contesté de toutes parts. La France souhaite à son tour l'annulation de ce décret Trump sur l'immigration. C'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, qui l'a dit tout à l'heure. Volkswagen détrône Toyota. Le géant japonais dominait le secteur automobile mondial depuis plusieurs années déjà. Il a cédé l'an dernier, en 2016, son titre de numéro 1 à Volkswagen, sacré pour la première fois, malgré l'affaire et le scandale du Dieselgate. Et puis Jacques Rousselot confirme sa candidature à la présidence de la Fédération française de foot. D'après le quotidien L'Est Républicain, le président du club de Nancy fera donc notamment face au président sortant Noël Le Graët, qui avait annoncé sa candidature à un nouveau mandat en novembre dernier, après avoir longtemps laissé entendre qu'il laisserait la place au président du club lorrain. 20h33 sur France Info, les informés, suite et fin.
20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT, spéciale présidentielle, spéciale primaire de la gauche. Et également aussi de la droite. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Laura Slimani, porte-parole de Benoît Hamon, Michel Hurvoy de Ouest France, Jean-Michel Apathy de France Info et, pour cette dernière demi-heure, Damien Abad, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes député de l'Ain et porte-parole de François Fillon, entre autres, hein, il y en a beaucoup. Image touchante d'ailleurs hier à la Villette de François Fillon au meeting de Pénélope Fillon. Voilà, elle avait choisi cette date pour organiser sa défense. Et, attendez, on me dit qu'en fait, c'était pas un meeting pour Pénélope, mais bien de François Fillon, en fait. On n'avait pas compris, en fait. Désolé, hein, mais comme le candidat de la droite a beaucoup parlé de sa femme, de son compte au Crédit Agricole, de sa passion amoureuse, on a failli tous avoir leurs vacances, d'ailleurs, à Torremolinos en 82, mais ça s'arrête là. Allez, faisant fi de la primaire de gauche, François Fillon a été très offensif hier, entouré de ses nombreux militants, et il s'en est pris à une personne, en fait, qui ne le craint pas du tout. Vraiment, je ne sais même pas pourquoi on en parle, François Fillon.
Il dit avoir un projet, je l'attends. Il dit être réformateur, a priori il l'est moins que moi. Macron c'est le sortant, Macron c'est le bilan de Hollande. Et Macron c'est surtout le prototype des élites qui ne connaissent pas grand chose à la réalité profonde de notre pays.
Voilà, François Fillon hier en meeting à Paris. Alors juste avant d'en parler, Damien Abad, on en a parlé en début d'émission, il y a le couple Fillon hein, qui est entendu par la justice, c'est difficile pour lui de sortir de cette affaire.
D'abord, vous êtes un peu vache parce que sur les 1h10 de discours, il y a eu simplement 5 minutes sur le registre personnel et en plus qui était important et je pense entendu par tout le monde.
Alors justement, comme il en a beaucoup parlé, lui-même mise en scène, parce que c'est François Fillon ne nous avait pas habitué à ça, c'est vrai, de la mise en scène même de son couple.
Mais c'était pas de la mise en scène, c'était de l'émotion. Et vraiment, quand on était dans la salle hier, on a ressenti cette émotion forte. Et même certains ont dit, ben François, au moins cet événement a servi à François Fillon peut-être de briser l'armure, de briser la glace et de montrer qui il est en tant que tel. Et aujourd'hui, voilà, et je crois que ça a été un bon moment d'émotion, mais aussi de conviction.
Cette affaire, justement, ça fait une semaine. Jean-Michel Apathy en parlait en début d'émission, ça fait une semaine, même un peu moins,
moins
d'ailleurs,
moins, semaine,
parce que c'était mercredi dernier mercredi, en effet, ouais. Nous sommes lundi, on a l'impression que François Fillon quand même a du mal, ça a été une semaine où normalement qui devait lancer sa campagne, finalement on ne parle que des révélations du canard enchaîné.
Oui, certainement. En même temps, ce discours était bienvenu, ce meeting hier, parce que ça a été un meeting fondateur. Il sera fondateur, mais d'une manière différente. Et nous, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que ça aille très rapidement, que l'enquête aille rapidement. C'était le souhait de François Fillon pour que la vérité triomphe, parce que vous savez, le destin de la France mérite mieux que le bal des boules puantes. Et c'est ça l'enjeu de cette élection. On doit enfin revenir aux idées.
Damien Abad, vous craignez pour la suite de la campagne ?
Absolument pas. Vous savez, non seulement il n'y a pas de plan B, non seulement François Fillon est déterminé, mais vous savez, le choix que vont faire les Français, c'est le redressement ou le chaos. Et tout le monde le sait. Et que donc, si c'est le redressement ou le chaos, posons-nous les bonnes questions pour cette campagne électorale et revenons sur les idées, sur les projets et sur la manière dont on veut réformer la France.
Justement, alors les idées, il y avait un moment justement de parler de lui comme un homme très intègre. Hein, ça a été ça aussi, au moment où tout à fait, Laura Slimani.
Non, moi je trouve que bon, il y a une question éthique qui se pose au-delà de la question légale, et je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis parce que je pense qu'elle est plus importante encore.
Pourquoi vous la posez que maintenant alors?
Ah, mais parce qu'on ne savait pas que. Je suis désolée, j'ai découvert comme tout le monde le fait que la femme de François Fillon avait été son employé ou sa salariée. Donc bon, voilà. Donc ça c'est la première question. Et par ailleurs, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est assez, moi, qui me dérange un peu. C'est quand même toute cette mise en scène dont on parle. Je trouve qu'elle elle focalise beaucoup sur la femme de François Fillon. Mais celui qui est accusé, c'est autant François Fillon que sa femme. Et c'est ses pratiques à lui qui sont accusées. C'est pas la personnalité de sa femme. Je trouve qu'il a, c'est aussi une manière pour lui de se dédouaner. Mais encore une fois, il faut qu'on parle du fond parce que effectivement, il y a deux projets extrêmement différents qui vont s'affronter dans cette élection présidentielle.
D'abord, vous reconnaissez déjà qu'il n'y a pas de problème juridique et donc pas de problème légal.
Ah non, je le reconnais pas. C'est pas moi de le juger. Je ne le reconnais absolument pas. Mais je vous dis que c'est pas
Damien Abad.
Le salaire démocratie, c'est de s'écouter d'abord.
Allez-y.
Donc simplement, le deuxième problème, moi je vous pose une question. Si vous considérez que c'est immoral, si vous considérez que ça pose un problème éthique, pourquoi avoir attendu 10 ans? C'est ça la question qui est posée. Pourquoi avoir
10 ans
de quoi, mais...
Non, monsieur Lapati.
Moi, je ne savais pas, par exemple. Moi, je ne savais pas, par exemple, que François Fillon avait employé deux de ses enfants au Sénat. On a compris que sa fille aînée a été employée pour l'aider à écrire son livre. Et je ne pense pas que l'argent du Sénat ait cette vocation-là. Monsieur. Donc je pense qu'on attend des explications de François Fillon et qu'effectivement, avant de pouvoir dérouler ses idées, il a quelques réponses à apporter sur un plan éthique. Moi, je ne connaissais pas l'emploi de ses enfants par l'argent sénatorial.
Monsieur Apathy, vous connaissez la pratique parlementaire qui était la possibilité au Parlement et à l'Assemblée nationale de pouvoir embaucher des personnes de sa famille pour pouvoir travailler.
Vous-même, vous savez que cette transparence, elle n'existe que depuis 2013, mais il faut le dire.
Je termine là-dessus, c'est un sujet important.
On n'avait aucune manière de le savoir.
C'est un sujet important. Si
s'il
y avait un problème éthique...
Vous le pensez?
S'il y avait un problème éthique, monsieur Apathy, s'il y avait un problème éthique, pourquoi on attend autant de temps pour se poser la question de savoir si c'est une bonne chose ou pas que des membres de la famille soient assistants parlementaires? Parce que c'est ça le sujet qui est posé.
En
ce qui concerne les éléments matériels et les faits, vous le savez, ça sera devant la justice et François Fillon a promis d'apporter tous les éléments matériels qui prouveront la réalité de cet emploi-là. Mais quand on me pose ça, c'est la question juridique. Mais quand on me pose la question éthique, c'est de savoir s'il est bien ou pas d'embaucher de ses membres de la famille comme assistants parlementaires. Moi, je dis, ce débat-là, il mérite d'être ouvert. Et je suis prêt à en discuter. Je dis pourquoi avoir attendu 10 ans et pourquoi le sortir maintenant? Si ça dérangeait tant la gauche,
si je peux juste
pourquoi
dire,
n'avoir pas fait un projet de loi? Pourquoi ne pas avoir réformé le règlement de l'Assemblée?
Mais il y a eu un projet de loi en 2013 qui a permis de révéler exactement cela et ce type de mais bien sûr que si, le projet de loi transparence de 2013, il permet de révéler qui sont employés par les députés depuis 2013, depuis que la gauche a décidé que c'était une question importante que vous n'avez pas fait
depuis l'affaire Cahuzac.
Depuis l'affaire Cahuzac, c'est vrai. Et pourquoi vous n'avez pas fait comme au Parlement européen, qui lui interdit clairement pour des membres de sa famille d'être assistant parlementaire? Et à ce moment-là, vous auriez résolu tout le problème et il n'y aurait pas eu de sujet.
Vous savez ce qui me gêne dans votre propos, monsieur Abad? Je vais vous le dire simplement. C'est qu'en répondant sur un plan très formel et très légaliste...
Non, c'est pas sur un plan formel, c'est
sur
le plan des idées.
L'impact qu'a cette histoire auprès de l'opinion publique et auprès des citoyens.
Alors, ce qu'on va faire,
et je trouve ça un peu dommage.
On va y revenir dans un instant, et on va aussi parler de la primaire de gauche vue de la droite, parce que c'est aussi ça le but de cette émission. L'info à 20h40, et bien c'est Pierrick Bonneau.
Benoît Hamon promet de maintenir le cap tout en s'enrichissant des uns et des autres. À l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre Bernard Cazeneuve, le candidat socialiste à la présidentielle assure qu'il ne changera pas de programme, mais qu'il s'enrichira de l'apport des personnalités qui le rejoindront. De son côté, Bernard Cazeneuve l'a averti, la gauche ne réussira pas sans assumer le bilan du quinquennat. François Hollande recevra à son tour Benoît Hamon jeudi à 11h, annonce de l'Élysée ce soir. La réponse de Yannick Jadot à la main tendue de Benoît Hamon, le candidat écologiste à la présidentielle souhaite construire une dynamique avec le candidat socialiste, mais il demande à Benoît Hamon de s'émanciper du PS. Demande ça à Benoît Hamon pour se lancer dans la grande aventure. Il a effectivement besoin de garanties. Benoît Hamon a annoncé dès hier soir qu'il allait proposer au candidat d'Europe Écologie Les Verts et à Jean-Luc Mélenchon de construire ensemble une majorité gouvernementale. Les braqueurs portaient les brassards de la police à un convoyeur de fonds attaqué ce matin à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Le butin est désormais estimé à 400 000 euros. Une fois sorti de son véhicule, le dabiste, celui qui approvisionne les distributeurs, a été mis à terre et menacé avec un pistolet électrique. Le club de Montpellier écarte son entraîneur. Frédéric Hans et son adjoint Arnaud Cormier sont mis à pied à titre conservatoire. En clair, ils vont continuer à recevoir leur salaire mais ne seront plus sur le banc. Montpellier est 15e du classement de Ligue 1 à 2 points du premier relégable.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de Benoît Hamon, mais également de François Fillon. Alors, Michel Hurvoy, je ne vous ai pas tout à l'heure interrogé là-dessus. Hier, justement, lors du meeting de François Fillon, en dehors, bien sûr, de ces 4 minutes dont on nous a parlé avec l'épisode Pénélope Fillon, François Fillon a ciblé véritablement une personne. C'est vraiment aujourd'hui Emmanuel Macron.
Le candidat caché.
Emmanuel Macron davantage que Benoît Hamon. Alors, il ne savait pas à l'heure qu'il était que Benoît Hamon allait être élu, mais bon, voilà, on le sentait. C'est exprès qu'il a ciblé Emmanuel Macron ?
Mais bien sûr. Bien sûr, parce que pour lui, c'est le candidat le plus dangereux. C'est pour ça que l'élection de Benoît Hamon n'est pas forcément, enfin, comme candidat du Parti Socialiste, n'est pas forcément une bonne nouvelle. Quelqu'un comme Manuel Valls, qui aurait plus mordu, qui aurait plus affaibli Emmanuel Macron, était certainement une meilleure nouvelle pour la droite. Donc là, maintenant, on tire à bout portant sur Emmanuel Macron. Il n'a été question, j'allais dire, que de lui. Si, les autres un petit peu, oui. pour amuser le public, pour le fun. Mais Macron était omniprésent.
Le reste, Mélanie.
Oui, moi, je trouve que ça prouve aussi ça prouve aussi quand même l'ambiguïté totale d'Emmanuel Macron sur sa ligne politique, parce qu'on voit bien que la droite a peur que ça leur prenne des électeurs. Mais non, mais c'est vrai, je veux dire, moi, j'entends là Yannick Jadot ce qu'il dit, effectivement, sur certains sujets, je pense notamment aux questions migratoires, en matière de réfugiés, aux positions qui ont été celles d'Emmanuel Macron sur ces sujets-là, je pense qu'il a une vision qui se rapproche de ce que Benoît Hamon a essayé de porter dans cette primaire, d'ailleurs, contrairement parfois à Manuel Valls, mais sur des grands sujets économiques et sociaux qui sont très importants pour la gauche, je trouve que là, à chaque fois qu'Emmanuel Macron a transgressé, c'est toujours sur sa droite, en matière de libéralisation du marché du travail, de durée du temps de travail, et donc là, il y a quand même des choses qui, à mon avis, vont avoir du mal à s'intégrer dans un projet de transformation sociale.
Pour François Fillon, il est bien à gauche.
Damien Abad, justement, aujourd'hui, c'est
bien l'héritier de François Hollande, alors, on confirme.
Benoît Hamon n'intéresse pas, finalement, François Fillon ?
Absolument pas, vous savez, il faut respecter tous les adversaires, surtout en ce moment. Je voudrais simplement, la bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est d'abord que la gauche est divisée, c'est qu'il y a déjà trois gauches. Mmh. C'est qu'il y a la gauche de Mélenchon, la gauche de Macron et la gauche de Hamon. Et d'ailleurs, moi, si j'étais électeur de gauche, je me poserais la question, est-ce que je dois aller voir Macron en meeting à Lyon ? Est-ce que je dois aller voir Hamon en meeting à la Mutualité ? Ou est-ce que je dois écouter Mélenchon en hologramme le week-end prochain ? Au moins, nous, à droite, on a réglé ce problème grâce à une primaire où il y a une forte participation, une forte mobilisation, et François Fillon l'a emporté en tant que tel. Et je voudrais dire juste une chose. C'est vrai qu'on a parlé d'Emmanuel Macron parce qu'il faut aussi révéler les contradictions. Il faut aussi parler projet contre projet.
Mais Damien Abad, pour vous, il est plus dur à combattre Emmanuel Macron que Benoît Hamon, qui a finalement, c'est plus simple, droite-gauche,
Je ne crois pas. Ne sous-estimons pas Benoît Hamon. Benoît Hamon, il a gagné parce qu'il a une ligne politique qui a été claire. On est en totale contradiction avec ses idées, mais il faut au moins lui reconnaître à la fois sa ligne politique et son honnêteté intellectuelle. Je dis juste simplement sur le meeting d'hier, la quasi-totalité du meeting a été faite sur les propositions économiques et sociales. Et notamment, quand on disait que le projet de François Fillon était trop brutal, quid de la question de l'autisme, quid de la question du handicap, quid de la sécurité sociale, quid également du plan sur la lutte contre la pauvreté. Tous ces éléments qui ont été mis sur la table, et quid aussi de la revalorisation des petites retraites, du salaire net qui a augmenté également, toutes ces propositions économiques et sociales font quoi ? Qu'on a un projet de redressement pour la France, mais il ne s'agit pas simplement de redresser les comptes, il s'agit d'abord de redresser les vies et de redresser le pouvoir d'achat des Français.
On dirait quand même que quand vous voulez supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, vous ne redressez pas la France.
C'est 8%.
C'est tout à fait intéressant ce que dit Damien Abad. Effectivement, le discours de François Fillon hier était un discours très riche en contenu et très social dans le ton. Et le drame pour lui, c'est qu'il n'a été retenu que l'épisode Pénélope. Et très social et très coûteux budgétairement parlant.
Exact.
Parce que quand on regarde, alors ça, je demande, je demande à voir.
Alors
je vous explique. Financé avec du déficit.
Non, pas avec du déficit.
Il le dit lui-même.
Non, c'est avec la TVA.
Jean-Michel Lapetit.
Hier, c'est vrai que l'épisode Pénélope a tout recouvert, mais c'est un recentrage de la campagne de François Fillon. François Fillon a visiblement entendu les mises en garde qui se sont succédées au sein des Républicains sur la dureté supposée de son programme.
Et Jean-Christophe Lagarde, centriste UDI, a pris la parole à ce meeting.
Mais par ailleurs, c'est vrai que Emmanuel Macron pose le même problème à François Fillon et à Benoît Hamon, et aussi d'une certaine manière à Jean-Luc Mélenchon, par l'image qu'il projette, dépassant la droite et la gauche, il est en train de capter des électorats divers qui en font aujourd'hui, et ils ne sont pas si nombreux que ça, un candidat potentiel pour le second tour. Mmh. Des candidats potentiels pour le second tour aujourd'hui, il y en a trois. Il y a Marine Le Pen, il y a François Fillon et il y a Emmanuel Macron. Et il n'y a personne d'autre. Nous sommes très peu, sans doute, en France à imaginer qu'un socialiste succédera à l'Élysée à un autre socialiste. Mmh. Ce qui, quand même, laisse à Emmanuel Macron un espace très important, dont les attaques très virulentes hier, ça n'est que le début, il y en aura d'autres un peu de tous les côtés.
Laura Simani, pour vous, c'est un adversaire Emmanuel Macron ou on peut composer avec lui?
Emmanuel Macron, pour l'instant, il bénéficie d'un flou. Voilà, vous savez, vous connaissez l'expression quand il y a un flou.
Mais décidément, vous l'avez déposé.
Je le redis, bah oui, mais parce que c'est vrai.
La Rochefoucauld a dit qu'on ne sortait de l'ambiguïté qu'à son détriment.
Mais le problème, c'est qu'il va falloir qu'il en sorte à un moment donné, parce que tout le monde va lui demander d'en sortir, et parce que c'est pas correct de se présenter devant les Français sans dire vraiment ce qu'on porte politiquement. Je pense que c'est pas bon pour le débat démocratique non plus. Et je pense que sa posture d'homme complètement providentiel, qui construit un mouvement autour de lui. Enfin, vous avez quand même En Marche, Emmanuel Macron, EM, enfin, tout tourne autour de sa personnalité. J'espère d'ailleurs qu'il est solide, parce que au bout d'un moment, ça va se poser. Oui, mais je pense que vous avez des choses contradictoires qui se portent dans la société.
On a senti Benoît Hamon qui n'était pas contre une discussion avec Emmanuel Macron.
Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des sujets sur lesquels il se rapprochait d'Emmanuel Macron. Mais il a toujours été assez ouvert sur ce sujet. Mais encore une fois, il a dit très clairement que son cœur à lui battait à gauche, et qu'à gauche aujourd'hui, il y avait des personnalités qui avaient des projets politique qui se rapprochait fortement du sien, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, avec lesquels il faut travailler dans un premier temps, et on voit que c'est ouvert.
Damien Bataille, longtemps, finalement, la droite n'a pas véritablement parlé d'Emmanuel Macron. On sait qu'il y a eu des argumentaires distribués auprès des élus sur Emmanuel Macron. Ça veut dire que François Fillon, qui faisait fi de dire « il ne m'intéresse pas », on voit quand même qu'il l'intéresse énormément. On sent qu'il a la possibilité d'aller aussi sur son terrain.
Il s'agit de débusquer un candidat caché. Emmanuel Macron, aujourd'hui, avec la défaite de Manuel Valls, est le principal héritier de François Hollande.
Et plus que Benoît Hamon, aujourd'hui,
bien entendu,
qui va se retrouver peut-être quand il a du Parti Socialiste.
Benoît Hamon a construit sa victoire sur l'anti-hollandisme, l'anti-valsisme et contre le gouvernement. Emmanuel Macron construit sa candidature en émanant le fils spirituel de François Hollande. Mais les sujets, au-delà de ça, quels sont les deux enjeux de l'élection présidentielle? Le premier, c'est la sécurité, le deuxième, c'est l'emploi. Désolé, mais sur la sécurité, quelle est la capacité, l'autorité que va incarner Emmanuel Macron face aux États-Unis, face à la Russie, dans un monde qui est en grande difficulté, où il faut relancer le processus européen sur cette stature régalienne-là?
C'est ce que je pense qu'il n'y a pas photo de Benoît Hamon.
Oui, mais sauf que vous m'accordez quand même que l'électeur de la primaire, de la belle époque, mais de la belle alliance populaire, n'est quand même pas tout à fait le même que l'électeur à l'élection présidentielle. Et le deuxième sujet sur l'emploi, et là on est quand même dans le candidat des contradictions et des ambiguïtés. Quid de la question des 35 heures? Quid de la question du compte pénibilité? Quid des questions qui sont importantes d'une France libre, c'est-à-dire d'une France qui permet à toutes celles et tous ceux qui créent de la richesse d'enfin pouvoir répartir ses gains sur tout le territoire? C'est ça l'enjeu. Et aujourd'hui, force est de constater que le compte n'y est pas,
et qu'Emmanuel Macron,
aujourd'hui, excusez-moi de vous le dire comme je pense que malheureusement pour lui, il est victime de ces contradictions et ambiguïtés. Quand le doute sera levé, ça fera pchit.
Allez, dans un instant, on va parler même de ce processus des primaires, finalement, qui a intéressé les Français pendant trois primaires à la suite. On va en parler dans un instant. L'info à 20h50, Pierrick Bonneau.
Trois jours après sa promulgation, le décret anti-immigration du président Trump ne passe toujours pas. Jean-Marc Ayrault demande ce soir l'annulation pure et simple du texte. Le ministre français des Affaires étrangères juge cette mesure dangereuse et préoccupante. Et puis à l'instant, Barack Obama dénonce toute discrimination fondée sur la croyance ou la religion. L'ancien président américain sort de son silence 10 jours après son départ. Il encourage même les Américains à manifester en défense de la démocratie. La police québécoise annonce qu'un seul des des deux hommes placés en détention après la fusillade dans une mosquée est considéré comme suspect. L'autre homme ne serait qu'un témoin. 6 personnes sont mortes et 8 ont été blessées hier soir dans un centre culturel islamique de Québec. Des perquisitions ont été menées ces dernières heures dans une résidence près de la mosquée, mais toujours pas d'explication sur les motivations du ou des tireurs. Le couple Fillon, toujours entendu par les enquêteurs ce soir, Pénélope et François sont interrogés séparément sur les soupçons d'emploi fictif de l'épouse du candidat de la droite à la présidentielle. La femme de François Fillon est toujours soupçonnée d'avoir occupé pendant 8 ans un emploi fictif d'attaché parlementaire auprès de son mari ainsi qu'à la revue des Deux Mondes. Elle y était officiellement chargée de rédiger des notes littéraires. Les Grenoblois étaient concernés depuis 12 jours. Fin de l'épisode de pollution aux particules fines dans le sud-est de la France. Les restrictions de circulation sont levées en Savoie, en Haute-Savoie, dans le Rhône et dans l'Isère. Les transports publics vont redevenir payants à partir de demain à Grenoble.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, il nous reste quelques minutes pour faire une sorte de petit bilan, parce que c'est vrai que depuis le 13 octobre, on avait pris l'habitude, le jeudi c'était débat et crousti chaud, et le dimanche c'était vote et pizza, c'est vrai que l'hygiène alimentaire ça fait deux, okay. 4 débats à droite, et oui Jean-Michel, 4 débats à gauche, 4 votes en tout, hein, et des candidats s'affrontant sur tous les sujets, alors c'est un exercice apprécié si on en croit quand même les chiffres d'audience à droite et à gauche, alors et maintenant, alors justement qu'est-ce qui va se passer, mais juste avant on a eu 3 primaires Jean-Michel, c'est vrai avec celle des écologistes, on peut dire aujourd'hui, est-ce que c'est un exercice indispensable et qu'il sera impossible de faire autrement, vous pensez?
Non, je ne crois pas. Je pense que quand une famille politique aura un leader incontesté, Nicolas Sarkozy en 2007, il n'y avait pas besoin de primaire. Quand une famille politique aura un leader, il n'y aura pas de primaire. Ou alors, ce seront des primaires très formelles, mais on ne voit pas un parti s'engager dans un barnum qui coûte 6, 7, 8 millions d'euros pour désigner quelqu'un qui tombe sous le sens. En revanche, quand une famille politique n'aura pas fabriqué dans l'opposition, parce que les primaires, ça doit essentiellement concerner les oppositions, quand on est un parti de gouvernement, c'est baroque d'organiser une primaire, parce qu'on doit rendre des comptes évidemment aux citoyens qui vous ont confié un mandat. Quand un parti d'opposition n'aura pas fabriqué un leader, plutôt que de voir un cénacle d'élus désigner l'un d'entre eux, ça fait quand même combine, alors la primaire s'imposera. La primaire, c'est un outil pragmatique qui répond à une situation. Parfois oui et parfois non. Pas de guerre de religion là-dessus.
Michel, au revoir. Oui. La primaire, je crois que c'est plus mauvais des systèmes, à l'exception de tous les autres. C'est nécessaire quand il n'y a pas de chef ou quand il y en a trop.
Bien sûr.
Donc là, c'était un moyen de dépasser ça. Et je pense que c'est effectivement très difficile, lorsqu'on est au pouvoir, d'organiser une primaire, parce qu'elle se fait contre le bilan du pouvoir sortant.
Bien sûr.
Mais il ne faut pas oublier le but premier de la primaire, c'est de rassembler pour accéder au second tour face à Marine Le Pen. Donc tant qu'on sera dans une espèce de triangulation de la politique avec cette même menace du Front National, ou en tout cas perçue comme telle, je pense qu'on trouvera des systèmes pour s'assurer d'être au second tour pour combattre le Front National.
Damien Madou, vous, finalement, votre famille politique, c'était une première hein, pour vous cette année, les primaires. Aujourd'hui, est-ce que ça vous semble le bon exercice? Est-ce que c'est indispensable? Ou au contraire, vous-même, peut-être, n'étiez-vous pas favorable au départ? Vous vous êtes converti? Voilà, quel bilan vous en tirez, vous-même, de l'exercice même hein,
Je rejoins Jean-Michel Apathy. Je pense qu'il faut être pragmatique et pas d'idéologie là-dessus. Il y a des moments où la
pas
primaire...
Pas systématique, en fait.
Pas systématique, parce que ça dépend. Quand il y a un leader incontesté, incontestable, quand vous sortez d'un exercice, une responsabilité gouvernementale ou de chef d'État et que vous avez réussi votre mandat et que vous êtes en capacité de vous présenter devant les Français, il n'y a pas besoin de passer par l'étape de la primaire. Ou quand il y a un leader naturel incontesté, incontestable. Ce n'était pas le cas. Et c'est pour ça que moi j'ai souhaité, dès le premier jour, d'avoir cette primaire. Parce que le but de la primaire, c'est quoi? Vous l'avez très bien dit, c'est d'être au second tour et surtout de rassembler notre famille politique. La primaire, en fait, c'est le premier tour, c'est ce qu'on faisait avant, au premier tour de l'élection présidentielle, et qu'aujourd'hui, on ne fait plus parce que quand le Front National est à un tel niveau, on ne peut plus se permettre d'avoir ce premier tour UDF-RPR comme on avait à l'époque. Et que donc, le but de la primaire, c'est le rassemblement, c'est l'unité. Et donc, et j'en termine par là, pour qu'une primaire réussisse, il faut aussi quand même avoir des convergences idéologiques. Parce que pour que la primaire débouche sur un candidat qui soit porté par tout le monde, il faut avoir une vraie convergence idéologique. Ouais. Et c'est la grande différence entre la primaire de la droite et de la gauche. Non seulement un succès populaire à 4,5 millions de personnes, mais c'est aussi le fait d'avoir...
Il y a eu
d'avoir...
des divergences à Alain Juppé et François Fillon.
Oui, hein, d'accord. Quand même, hein, enfin,
accordez-moi
heureuse,
quand même que les divergences entre Alain Juppé et François Fillon sont quand même moins importantes qu'entre Benoît Hamon et Manuel Valls, par exemple.
C'est la relation au bilan gouvernemental qui crée un vrai problème.
Aussi, mais pas que.
Je voudrais juste que, Laurent Simonnier, quand vous entendez
depuis tout à l'heure, on dit finalement les primaires, c'est aussi par rapport, parce qu'il y a aussi le Front National, il y a un moment où il faut se réunir. On a l'impression que cette vie politique qui ne tourne qu'autour du Front National, il y a un moment, est-ce que c'est sain finalement?
Je ne sais pas, on n'a peut-être pas vu les mêmes débats, mais il me semble qu'on a parlé de fond et peu
du Front National
finalement dans ces primaires.
Dans la logique des primaires.
Oui, on a parlé de propositions et pas uniquement de la logique d'opposition au Front National, pour être plus clair. Bien sûr que c'est une question de fond, mais elle a été traitée en parlant des solutions qui sont apportées, qui devraient être apportées par la gauche, en tout cas, lors de cette élection présidentielle. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de leaders incontestés et que c'est pour ça qu'on a ces primaires. C'est parce qu'il y a une demande démocratique dans la société, de plus d'horizontalité, et les citoyens veulent aussi avoir une voix, non seulement le jour de l'élection présidentielle, mais aussi dans les choix, le choix de celui qui va les représenter à l'élection présidentielle. Et c'est extrêmement important d'avoir ces choix-là, mais de ne pas les avoir uniquement pour l'élection présidentielle. Et j'en termine par là, mais il me semble que redonner du souffle aujourd'hui à la démocratie par le 49-3 citoyen, comme le propose Benoît Hamon, par le référendum d'initiative populaire, tout ça, ça répond aussi à cette demande démocratique qui s'exprime.
Des leaders incontestés, ça n'existe pas, mais des leaders, ça existe. Emmanuel Macron, par exemple.
Allez, ça doit se terminer, les informés de France Info. Aujourd'hui. Ça doit se terminer, les informés de France Info. Merci beaucoup à Laura Asmani d'être passée ce soir. Merci Damien Abad d'être passé. Michel, on voit la une de West France demain.
Alors, les suites de Hamon et Fillon, bien sûr. Mais moi, électeur, c'est le démarrage d'une série que l'on fait de consacrer à des citoyens ordinaires. C'est une série de 28 portraits de citoyens que l'on va publier jusqu'à la présidentielle.
28 jours. Merci beaucoup, Michel Hervois. Jean-Michel Apathy, demain, vous retrouvez avec qui à 8h30
Jean-Marie Le Guen, qui dira, je crois, parce qu'il a aussi une interview dans Le Parisien, que Benoît Hamon, c'est pas sa tasse de thé.
Ah, très bien. Retrouvez en tout cas dès 8h30 sur France Info. Et il est l'heure pour nous de retrouver Matteo Maestrachi. Bonsoir, Matteo.
Bonsoir, Jean-Mathieu. Bonsoir à tous.
Alors, quel est le programme ce soir? Et je crois qu'il y a des très beaux invités
ce soir.
Oui,
mais je les vois là-bas dans la régie. On va faire un clapping dans ce classico. C'est un nouveau truc dans les salles et les stades qu'on a piqué aux Islandais. On reçoit non pas un, mais deux champions du monde de handball, le gardien et capitaine Thierry Omeyer, le co-entraîneur Guillaume Gilles. Alors après les honneurs planétaires et l'Elysée, la troisième étape, c'était forcément France Info. Bien évidemment, on parlera aussi de foot un petit peu après ce match nul hier soir entre le PSG et Monaco. Donc à tout de suite, tout le monde va rester avec nous.
Et voilà le classico plein d'étoiles ce soir. Votre débat sport, c'est dans quelques minutes sur France Info.